c'est peut-être la froideur du vent qui vous glace le sang. Ou les étranges grondements dans les entrailles de la ville. C'est le sentiment déconcertant qu'il y a autour de nous tout un monde invisible. Ce n'est pas votre imagination. Ce monde est bien réel. Et il est très, très, très en colère.
Voilà pourquoi autrefois, vous aviez peur du noir.
Le seul espoir de l'humanité.
Officiellement, nous n'existons pas.
C'est le secret le mieux gardé de notre gouvernement.
Je tuerai n'importe qui si c'est nécessaire.
Alors pourquoi tu commences pas par moi ? Ça me gonfle.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran. On commence par une bande-annonce testostéronée.
Quelle entrée en matière, dis donc.
Ah, de toutes les blockbusters américains, on a du métal allemand et on va parler d'un réalisateur mexicain.
Ouais.
Car c'était bon. La bande-annonce de Hellboy 2. Car on va parler donc de Guillermo del Toro.
Tout à fait. Salut, j'ai mis
Seb.
Du temps à trouver c'était quel film.
Dit, hein. J'ai rien dit vraiment.
C'était compliqué parce que en plus toute la première intro sans les images correspond assez bien à tout ce qu'on va dire sur Del Toro,
c'est
très intéressant.
Et en fait, puis c'est après, juste au moment donné où il y a la voix de Ron Perlman.
La VF de Ron Perlman.
Et si tu commences par moi.
Incroyable.
Et voilà.
Incroyable.
Comment tu vas, Seb ?
Mais très très bien, ravi de parler de notre ami Guillermo, enfin, parce que c'est quand même une émission qu'on a sous le tapis depuis un petit moment,
oui.
Et qu'on a du mal à caler, et on est enfin là pour en parler.
Ce bon vieux Guillermo del Toro, qui d'ailleurs maintenant, dorénavant, passe pas seulement par le cinéma, on va dire en live action, hein, il fait beaucoup d'animation, et collabore même avec certains directeurs de jeux vidéo. Mais ça, on va pas revenir en longueur là-dessus, on pourrait peut-être...
On l'évoquera.
Va peut-être l'évoquer par la suite, on va donc revenir... tout d'abord sur la vie, la carrière de Guillermo del Toro, car en fait c'est, je trouve, un réalisateur très passionnant qui a vraiment un parcours assez, je dirais pas seulement atypique, parce qu'on va le voir né à Guadalajara, en fait Guillermo del Toro, donc élevé par sa grand-mère catholique, en fait c'est dès son plus jeune âge, à l'âge de 8 ans, il va emprunter la caméra Super 8 de son père et va donc réaliser ses premiers courts-métrages. Donc on voit déjà typiquement forcément le parcours de pas mal de réalisateurs que l'on connaît à travers l'histoire du cinéma, qui ont commencé également un peu de cette manière-là, de cette passion dévorante du cinéma dès leur plus jeune âge. Mais c'est vrai qu'en fait, Guillermo del Toro, lui, va se concentrer forcément sur tout ce qui est le côté fantastique, science-fiction. Ça a été un énorme fan, notamment même de la littérature, dès son plus jeune âge. Et ses tout premiers films, en fait, gamin, à 8 mm, en fait, il les faisait avec ses jouets de la planète des singes.
Ouais, bah de toute façon, ça va être, on va le dire, notre réalisateur geek adoré, quoi, Guillermo del Toro préféré. C'est-à-dire qu'il a quand même cette culture, il est rempli de pop culture, ou en tout cas de pop culture des années 50, des années 60, etc. Il est nourri de ça, il est nourri de toutes les cultures, aussi bien occidentales qu'asiatiques, etc. Voilà, il y a vraiment un énorme bagage. Et très rapidement, comme tu dis, il s'équipe d'une caméra, il commence à faire ses essais et tout. Et il rentre par la porte du cinéma, mais pas du tout derrière la caméra.
Oui, exactement, car donc il va étudier tout d'abord par l'Instituto de Ciencias, et en fait, il va notamment rencontrer Dick Smith, qui est en fait un créateur de maquillage,
un grand, très grand.
Notamment, donc, il avait fait notamment Little Big Man, L'Exorciste, et il va devenir en fait son élève. Il va donc travailler comme maquilleur, spécialiste des effets spéciaux pendant environ 10 ans, et donc il va créer, même au tout début des années 80, sa propre société qui va s'appeler Necropia.
Alors Dick Smith, grosse rencontre, et d'ailleurs on en reparlera plus tard, mais un des fondements en tout cas d'une partie de la filmographie de Guillermo del Toro, c'est des maquillages en effet pratique, en tout cas qui existent vraiment, c'est peu d'effets numériques, vraiment beaucoup de marionnettes, etc.
Il minimise généralement de la plus grande manière c'est les effets numériques.
Complètement, on reviendra dessus pour Hellboy par exemple, qui est un cas tout à fait impressionnant en plus, et très important. Mais voilà, on parle d'un monsieur, comme tu dis, l'exorciste, il a fait Le Parrain, je crois qu'il a fait Scanners aussi derrière, donc vraiment des grands morceaux de maquillage qui restent vraiment ancrés dans l'imaginaire collectif de l'histoire du cinéma en tout cas. Et donc voilà, il commence comme ça, et puis va y avoir le moment où réaliser des films, ça va commencer à le titiller, le monsieur Del Toro.
Et oui, donc il va réaliser notamment certains courts-métrages dès les années 85. Il va notamment d'ailleurs cofonder un festival aussi déjà, notamment donc le International Film de Guadalajara, dont la première édition aura lieu en 86. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il va donc écrire et réaliser plusieurs épisodes, notamment pour une série télévision. En fait, ça va être le début de se tester derrière la caméra avec la série qui s'appelle La Hora Marcada, qui est donc comme une espèce d'anthologie un peu dans la quatrième dimension en fait. Et donc c'est à cette occasion qu'il va rencontrer notamment d'ailleurs plusieurs de ses confrères, notamment Alfonso Cuarón et Emmanuel Lubezki. C'est à partir de 1993 donc qu'il va commencer à travailler sur son long métrage, qui va sortir son long métrage, son tout premier, Chronos. Donc, qui est un film assez atypique, un film d'horreur, notamment avec un certain Ron Perlman, donc dès son premier film. Et d'ailleurs, il va notamment remporter plusieurs prix, notamment donc le prix Ariel, qui est l'équivalent des Césars du cinéma donc au Mexique, et il va même être représenté à Cannes. Pas mal pour un début.
Dès le premier film, voilà. Alors, le Cannes, je ne sais plus dans quelle sélection il était, mais en tout cas, voilà, déjà présent à ce moment-là. Et puis, Chronos, une ambition artistique déjà assez grande. Le revoir aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant de se dire que c'est un premier film de cette époque avec vraiment une ambiance, un mélange des genres déjà qui est là, Chronos. On est sur le mythe du vampire, mais vraiment très éloigné de tout ce qu'on connaît du vampire, avec plutôt un univers qui mêle déjà le gothique avec le monde technologique, je dirais.
C'est ça, il a vraiment cet aspect en fait culture traditionnelle mexicaine, mais avec une vraie notion un peu presque Lovecraftienne en fait dès ses débuts, on peut le dire ça comme ça.
Complètement, et avec sous-jacent déjà une espèce de discours, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas de présence de politique dans le film, mais qui est vraiment sous-jacent par rapport à l'imaginaire qu'il a envie et le monde fantastique qu'il a envie d'amener, et qui verra plus tard, il va aller encore bien plus loin sur ses autres
notamment
films,
notamment le labyrinthe de Pan, évidemment. Alors donc forcément un réalisateur qui commence à marcher, qui est mexicain, et il va être notamment adoubé par certains de ses pairs, notamment réalisateurs américains. Forcément, on se dit, il va tout de suite aller aux États-Unis. Mais c'est ce qui va arriver en fait, surtout par un concours, une circonstance un peu assez aussi dramatique d'une certaine manière, car en fait en 97, donc son père Federico est enlevé au Mexique et va être libéré contre une rançon, ce qui va donc inciter encore plus Del Toro donc à s'expatrier du pays. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il va bénéficier lors de cet événement de l'aide financière d'un certain réalisateur qui s'appelle James Cameron, qui va donc prendre en charge les frais notamment de négociation avec les criminels.
Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il décide de partir du Mexique purement et simplement et continuer la carrière qu'on lui connaît à Hollywood.
Voilà.
Et avec James Cameron qui va rester très proche de lui, comme même conseiller, entretien particulier pour des conseils sur ses films, sur la manière technique de réaliser telle ou telle scène. C'est James Cameron notamment qui leur conseillera d'utiliser plutôt sur Hellboy, je crois. De choisir plutôt de faire en maquillage le personnage d'Hellboy plutôt qu'en effet numérique.
En effet numérique, exactement. Alors, à peine arrivé en Californie, donc en fait, Del Toro va coécrire et diriger un nouveau film d'horreur qui s'appelle donc Mimic, avec notamment l'actrice Mira Sorvino. Et dès lors, on peut vraiment le remarquer tout de suite dans ce film-là, et même déjà dans avant, il a vraiment un univers très singulier, très personnel en fait, et donc qui va correspondre en fait, notamment sur, comme tu le disais en fait, garder cette petite touche politique ou ce contexte historique qui va forcément avoir une importance dans tout l'univers de l'œuvre du cinéma.
Mais ne jamais le mettre au premier plan.
Mais jamais le mettre au premier plan. C'est ce que l'on voit également dans Les Chimes du Diable, donc qui va donc réaliser en 2001, et il le part donc tourner en Espagne. Donc en plus, forcément pour un film qui se déroule donc de l'époque de Franco, donc là est le contexte de la guerre d'Espagne, donc la guerre de 36-39, là il va donc jouer à fond les ballons là-dessus. D'ailleurs, c'est un film qui est en partie financé et produit par un certain Pedro Almodovar, donc avec la société, donc sa société El Deseo. Donc en fait, c'est là où on voit que Del Toro, en fait, dès le départ, en fait, il a vraiment déjà, on va dire, une association assez chaleureuse autour de lui, qui lui permet en fait de se lancer, on va dire, définitivement en tant que réalisateur, non pas de films, on va dire, comment dire, techniquement, pas blockbuster, mais des films lambda, et aussi en tant qu'être auteur.
C'est-à-dire que, mais rapidement, je sais même pas s'il se conscientise qu'il fait du cinéma d'auteur. Del Toro, il embrasse complètement la singularité et l'univers qu'il va emmener dans le film, ce qui fait qu'il peut être bien à Hollywood faire Mimi, qui d'ailleurs, y a la fin du tout qui n'était pas du tout prévue à la base dans le scénario de Guillermo del Toro, où là ça part en explosion de partout, et c'est vrai, quand on le revoit, ça détonne complètement avec le reste du film.
Un petit peu, ouais.
Complètement même. Et ensuite il attaque à Les Chines du Diable, où on pourrait dire, bah voilà, produit par Pedro Almodovar, donc beaucoup plus dans un circuit de cinéma d'art et essai et d'auteur. Cela n'empêche que tu sens pas qu'il y ait, dans Mimic ou Les Chines du Diable, un investissement qui soit moindre dans l'un ou dans l'autre. Voilà, il y a quand même toujours cette volonté de porter son film, son projet, de bout en bout.
Et une particularité forcément qu'on verra par la suite, notamment sur ses personnages. Mais c'est vrai qu'en fait, Del Toro, par la suite, en fait, il va alterner donc avec des productions plus ou moins grosses à Hollywood, donc notamment donc Blade 2 en 2002, avec Wesley Snipes, donc qui portait le projet forcément après le premier film. Et donc, il va donc notamment adapter un autre héros qu'il voulait faire depuis très très longtemps avec un de ses amis et collaborateurs, Mike Mignola, qu'il a créé donc Hellboy. Alors il avait notamment refusé donc de faire Blade Trinity, même de faire Harry Potter et compagnie, pour se consacrer uniquement à ce héros de franchise.
Ouais, je crois qu'on lui propose à l'époque un sacré paquet de projets,
ouais.
dont les suites de Blade, Harry Potter le troisième, que d'ailleurs c'est son compatriote Alfonso Cuarón
qui va
le récupérer. On lui propose Alien versus Predator aussi, enfin voilà, que des films à gros, enfin plus ou moins gros budget, en tout cas. Et lui, non, comme tu dis, voilà, il va se concentrer, il va venir vraiment accepter, aller vers ce super-héros qu'il veut faire depuis un moment. Hellboy, quoi, voilà, on reviendra dessus en deuxième partie d'émission, mais qui comporte quand même, sous couvert de blockbuster américain de super-héros, beaucoup, c'est un film de Del Toro à part entière, quoi, voilà.
Totalement. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est un réalisateur qui, comment dire, arrive toujours à retomber sur ses pattes, en fait. Alors c'est vrai qu'en fait on s'en rend pas compte, mais c'est un réalisateur qui a toujours eu pas mal de, on va dire, soit des problèmes financiers, des soucis pour toujours monter, faire ses films. Pour Hellboy par exemple, il a dû se battre avec les producteurs pour mettre Roel Perlman dans le rôle principal, que personne ne voulait,
parce
que c'est pas un nom connu.
Il voulait,
ils ont proposé énormément d'acteurs, c'était assez ridicule. D'ailleurs Del Toro le disait lui-même, ils ont aucune représentation, ils ne savent même pas de quoi parle le personnage. Donc il part dans un vrai respect de l'œuvre de base, après pour forcément la réadapter. Mais c'est vrai qu'en fait, donc, c'est un réalisateur qui est toujours très intéressant, parce qu'en fait, il va toujours vouloir, on va dire, s'afficher en tant que réalisateur qui arrive à avoir une percée hollywoodienne, mais aussi une certaine reconnaissance artistique. Et je pense que forcément, la quintessence et la consécration, c'est avec Le Labyrinthe de Pan, qui va retourner en Espagne, qui reprend encore une fois de plus le contexte de la guerre en Espagne, mais cette fois-ci avec un contexte un peu plus onirique que Les Chines du Diable.
Ouais, bah, selon lui, c'est vraiment la suite spirituelle de Les Chines du Diable, hein, Le Labyrinthe de Pan. De toute façon, les deux films s'entrecroisent et sont presque jumeaux. Mais oui, il revient à ça. Et ça lui offre vraiment En tout cas, cette consécration, dans le cinéma d'auteur, il revient à Cannes, je crois qu'il remporte, je ne sais plus quel prix il remporte le Labyrinthe de Pan à Cannes, mais il est récompensé, en tout cas, énorme succès, et moi, dans mon souvenir, les gens parlaient d'Hellboy, mais le Labyrinthe de Pan a vraiment placé le nom de Del Toro dans la tête de tout le monde, quoi. Mm-hmm. Ça a été, avant, il y avait du public un peu plus de niche, fait forcément Chronos, Mimic, voilà, on est plutôt sur du public de cinéma français. Fantastique de cinéma de genre qui vont le voir. Hellboy, on y va. Blade 2, on y va, mais sans forcément faire attention au nom Del Toro qui est derrière. Et c'est le Labyrinthe de Pan qu'on vraiment, il y a la consécration de, voilà, c'est ce monsieur Del Toro qui a cet imaginaire-là et cette singularité-là pour présenter, en tout cas, pour faire du conte, parce que c'est un conteur, c'est un conteur avant tout, Guillermo Del Toro.
Totalement un conteur. Et c'est vrai qu'en fait, donc par la suite, Del Toro, on le voit notamment avec plusieurs de ses collaborateurs et confrères, Iñárritu et Cuarón, en fait, on peut le dire, il constitue en fait finalement la seule génération de réalisateurs étrangers à s'épanouir et prospérer dans l'écosystème hollywoodien. Del Toro parvient finalement à maintenir ses choix, donc comme par exemple, comme je parlais d'Aaron Perlman avec Hellboy, et il officie régulièrement comme consultant créatif dans pas mal de films que l'on a vu récemment au fil des années, notamment par exemple Hobbit, qui notamment était en partie présenté pour le réaliser, finalement, oui. Il va le laisser au créateur même du Seigneur des Anneaux, donc Peter Jackson. Mais il va rester donc consultant créatif derrière. Même pour des films d'animation comme Kung Fu Panda, il a été consultant créatif pour ce film. Et en fait, il arrive toujours aussi, quand même, d'une certaine manière, dans ses propres films, à garder sa patte particulière.
Quoi. Ouais, complètement. Et puis, alors aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que c'est de plus en plus difficile, en plus, d'apporter des films originaux blockbusters. Mais c'était un des derniers avec son Pacific Rim, par exemple, ouais. Qui ne sortait d'aucun. Une franchise qui était vraiment des kaiju plus des grands robots, quoi, tu vois.
Il
amener ça à Hollywood de manière vraiment premier degré et en y allant à fond comme il y a été, c'est le seul à le faire, quoi.
Ouais, mais clairement.
Parce que des films, on a pu le voir, les derniers Godzilla qui ont été faits par Gareth Edwards, où c'est vraiment pauvre, quoi, c'est compliqué. Et puis il y a une manière de ramener ça en faisant du américain, alors que Del Toro, pas du tout, quoi. Tu vois, il y a vraiment, on s'amuse, c'est des gros robots et des gros monstres. Je sais le côté, le côté, je veux dire, un peu méprisant, mais j'aime beaucoup le film un peu bêta de la chose, mais quand même il y va à fond et il est d'une générosité incroyable,
on est sur un film de joie, d'ailleurs il le dit lui-même, hein. C'est pour lui, en fait, c'est son film le plus personnel, parce qu'il est destiné tout d'abord à lui-même, en fait, il le dit, hein, c'est destiné à moi-même et en fait à sa version enfant de 11 ans qui était fan de monstres géants, parce que finalement c'était un réalisateur très, très porté sur le cinéma fantastique et le cinéma de genre, donc comme forcément le Kaiju Ega, ou même quand on le voit avec le cinéma de vampire, le film de vampire, en fait il a fait tellement de versions différentes sur des différents personnages vampiriques, c'est pas pour rien, en fait il a aussi une version un petit peu plus prononcée pour montrer des mythes, comme par exemple le traitement d'une addiction, on peut le voir notamment dans Chronos, le traitement d'une maladie, comme par exemple dans la série The Strain qu'il a produit et réalisé le premier épisode, et même on peut le voir tout simplement comme un actionneur pur et simple, comme dans Blade 2, quoi.
Tout à fait. Mais avec un vrai amour du genre, quoi. On peut le voir dans Blade 2, c'est les scènes de vampires, elles sont hyper généreuses, quoi. Ouais. Et puis
il s'est fait plaisir.
Il s'est fait plaisir. Et puis tu sens que les monstres, les maquillages, il y a un vrai soin qui est pris là-dessus. Les Kaiju, je me souviens qu'il y avait cette idée incroyable. Alors les combats sont dantesques, tu vois, c'est vraiment très drôle. Et puis il y avait cette idée à la fin que c'était vraiment d'autres créatures qui pilotaient les gros Kaiju.
Oui.
Voilà. Donc voilà, il y a quand même. Mine de rien, c'est quelqu'un qui est rempli de cette culture-là et qui le fait déborder dans ses films, quoi.
Exactement. Pour le coup, on va faire une petite pause BO. Donc Pacific Rim, le thème principal, composé par Amin Djawadi, avec Tom Morello à la guitare. We'll be right back. Et là, c'est un gros kaiju, il lâche une caisse. Allez, Jean-Marie Bigard.
Le jour où Bigard parlera kaiju, on en reparlera. Hein.
Alors, revenons à nos moutons donc, sur Guillermo del Toro. Pour revenir un petit peu plus donc, sur ses idées de thématique, de réalisateur, c'est avant tout un storyteller. Et ça se voit à l'image. C'est un réalisateur qui a, je trouve, une sensibilité poétique et pas comme ce que je viens de dire juste avant.
Voilà l'inverse, exactement.
C'est l'inverse, oui. Pour lui, en fait, et je cite ses mots, le visuel, c'est la narration. Donc, les couleurs, les lumières, la conception, les textures, pour lui, en fait, tout a forcément une importance à l'image et ça permet de raconter le contexte et la vie d'un personnage. On peut le voir par exemple dans Pacific Rim, on peut le voir encore plus dans d'autres films comme par exemple Labyrinthe de Pan ou autre. Pour lui, la première impression d'un personnage est terriblement importante. Ça se voit, je pense, encore plus même avec son Pinocchio récent.
Ah oui, ah oui. Oh là, j'avais oublié le Pinocchio, mais oui, tout à fait, oui. Ah oui, bah complètement.
Alors, on le remarque aussi très très bien dans le premier album, avec l'introduction donc, du personnage principal, donc campé par Ron Perlman, qui avec cette introduction notamment dans le passé, où en fait il est invoqué donc, par les méchants nazis,
tout à fait.
Et Ed Jonert vient le sauver, et après on le revoit adulte, et bon, il est en mode tout, je suis le boy, je suis...
Bah je bois des bières, et puis je fume mes cigares, et foutez-moi la paix,
et voilà.
Voilà, c'est le boy. Quoi.
Même l'introduction de l'amphibien dans la forme de l'eau, en fait, ça a toujours une importance en fait de comment représenter ces personnages-là. En fait.
Ouais, il y a un soin.
Il y a un côté mystérieux. Il y a un côté où en fait le personnage, on le voit même, on va dire d'une certaine manière évoluer, de physiquement parlant, et même aussi d'une certaine manière mentalement parlant dans la longueur du film.
Ouais, bien sûr. Alors très rapidement, effectivement, tu sais avec qui tu vas passer la compagnie pendant une heure et demie, deux heures de film, quoi.
Oui.
Hellboy, tu as tout à fait raison, c'est comme ça qu'il le présente. Le labyrinthe de Pan aussi. L'échine du diable, c'est encore plus beau, je trouve, avec cette rencontre avec ce petit garçon qu'on fait au début, qui tout est là, quoi, déjà. C'est-à-dire qu'il rentre, il y a cette espèce d'orphelinat qui est là, et on sent, on n'a encore rien vu, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est il y a l'élément fantastique qui est déjà là.
Alors pense au retour de ses parents, et en fait, forcément, de cette certaine manière, il comprend qu'il est mort et que les autres peuvent pas le garder.
Tout à fait.
Car en fait, c'est les résistants. Enfin, ils sont face à l'armée franquiste. Et donc, en fait, ils sont là pour le protéger d'une certaine manière, le mettre à l'écart des conflits, de la guerre. Et il y a tout ce contexte, forcément, avec donc le dirigeant de l'orphelinat.
Bien sûr.
De cette porte un peu inquiétante que l'on voit toujours au loin.
Tout à fait. Et cette idée géniale de bombe au milieu de la cour qui n'explose pas, qui est là, qui accompagne très bien cette idée de qui est présent. On sait que c'est là, on sait que ça n'a pas explosé, mais que ça peut... Voilà, à tout moment, il y a quelque chose qui vient déranger ce cadre, ce décor dans lequel les personnages évoluent. Et c'est une chose, voilà, avec le labyrinthe de Pan, on va continuer là-dessus, puisque voilà, comme je disais, quand même, la suite très spirituelle de l'échine du diable. Il va encore plus loin, c'est-à-dire que les monstres sont encore plus monstrueux. Quand je dis les monstres, j'entends Sergi Lopez.
Oui. Hein. Il suffit de se rappeler de la scène, en fait, de l'exécution, en fait, entre d'un homme et son fils, en fait, où là, il va carrément jusqu'à... c'est frontal en plus. C'est ça, la force dans cette séquence-là, c'est qu'en fait, la froideur, le manque d'humanité de ce personnage-là, en fait, est montré frontalement par l'exécution de ces personnages-là. En fait,
C'est Sergi Lopez qui en parlait de ce rôle en disant que c'était le plus malveillant qu'il ait pu jouer,
je pense.
Facilement. Et puis surtout qu'il aimait beaucoup, et je suis assez d'accord avec lui, que Del Toro ne cherche à aucun moment à justifier ou à expliquer pourquoi il est méchant, et à chercher à expliquer le fascisme.
Ouais.
Et non, comme on dit, son personnage est vraiment froid et méchant. En fait, il est juste, c'est vraiment un bad guy, tout ce qu'il y a de plus
le
mauvais.
Le vrai contexte en fait, de ce personnage, là en fait, c'est qu'il veut mettre à l'écart en fait son futur fils.
Ouais.
Qui est donc en fait pour l'histoire donc du labyrinthe de Pan, en fait donc le personnage donc principal, la petite gamine, suit sa mère dans un camp de militaires franquistes car elle s'est remariée donc avec un général, et ce mec là en fait veut la mettre à l'écart puisqu'elle en fait elle est enceinte, elle va donc a accouché donc de son fils, mmh. et lui forcément veut que sa descendance en fait soit à l'écart, quoi.
Bien sûr, ouais. bien sûr.
Et d'où la séquence de fin quand il est prêt à être exécuté, oui. et qu'il demande une requête, c'est-à-dire que son fils se rappelle de lui.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Forcément, la résistante ne lui répond pas et lui tire une balle dans la tête.
Ouais, ce qui est une sentence très cruelle aussi, hein. Mais en tout cas, la force du labyrinthe de Pan, déjà, c'est tout l'univers fantastique. Alors voilà, l'important aussi à dire sur labyrinthe de Pan, c'est que le film est construit en deux mondes qui mmh. vont s'intercommuniquer par le biais de cette jeune héroïne, c'est-à-dire le monde réel du franquisme et du fascisme, mmh. Et le monde fantastique dans lequel l'héroïne rentre et croise le faune, et pas du tout Pan, hein, contrairement mmh. au titre français et anglais, il n'y a pas du tout de dieu Pan là-dedans.
Non, absolument.
Le faune qui, lui, va lui dire des épreuves à passer pour pouvoir accéder au trône et devenir la reine de ce monde-là. Et l'intelligence que je trouve dans le labyrinthe de Pan, au-delà, comme tu disais, du traitement visuel des deux mondes, qui est dans un travail de photographie magnifique dans les deux cas, et avec des vraies créatures, on a Doug mm-hmm. Jones qui est
son mannequin.
Son mannequin à lui, voilà, qui revient dans quasiment tous ses films, là, qui interprète le faune, plus l'autre créature avec les yeux dans les mains.
Les yeux dans les mains, ouais.
Tu sais comment s'appelle cette créature, l'homme pâle. Peut-être pas lui. Mais en tout cas, c'est ça. Et de se dire que la dichotomie, l'espèce de paradoxe qu'il y a dans les personnages, ce sera dans le personnage du faune et pas du tout dans celui de Sergi Lopez, du général nazi, qui, lui, il n'y a rien à sauver, quoi, vraiment.
Non.
Et l'ambiguïté, elle appartient au monde fantastique. Et voilà, c'est... Alors, Del Toro dit, c'est un film sur comment on fait des choix, et puis surtout, là, ce que raconte Del Toro dans quasiment tous ses films, l'importance de l'imaginaire dans nos sociétés, quoi.
L'importance de garder l'imaginaire.
Et de garder l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est la fin du labyrinthe de Pan qui, même si elle meurt dans le monde réel, elle parvient quand même au trône dans l'arène, en devenant reine de ce monde-là. Mmh. Et Del Toro va même encore plus frontalement quand tu lui poses la question aujourd'hui, en disant, écoutez, non, pour moi, ce monde fantastique existe vraiment, et à la fin, elle devient vraiment reine de ce monde-là. C'est pas du tout dans sa tête que ça se passe, quoi.
Ouais, alors que forcément, il y a toujours cette ambiguïté-là présente.
Et dans le film, elle existe, et on est en droit de se poser la question. Mais lui, ça montre bien, voilà, il a envie de croire vraiment que cet imaginaire
que même le créateur a envie de dire de croire. Voilà, c'est ça en fait la particularité de ce cinéaste. C'est ce que je signalerais en fait, c'est un cinéaste du conte, mis à part peut-être forcément son Pacific Rim, finalement ce sont des contes mis en image, les monstres, les enfants, la morale, la magie, la peur ou encore l'émerveillement. En fait, son cinéma, c'est avant tout donc une ode à l'imaginaire, à l'imagination, et c'est un monde qui sert forcément de refuge. Et le labyrinthe de Pan le représente à la perfection.
Ouais, c'est le plus fréquent, ou comme pour revenir sur les Chines du Diable, le fantôme n'est absolument pas source de danger. Au contraire, il est là
pour signaler qu'en fait il y a eu ces meurtres. En fait, il y a quelque chose de caché derrière.
C'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché doit se trouver dans l'élément surnaturel, dans le fantastique. Dans Hellboy, c'est cette société secrète c'est plutôt cette organisation secrète qui est gérée par le gouvernement, que personne ne doit savoir, mais qui est là et qui est là pour nous sauver.
Alors que Hellboy, lui, il a envie de découvrir le monde, mais il ne peut pas.
Mais il ne peut pas, parce qu'il est condamné à rester caché et pourtant à agir pour protéger la ville des monstres qui peuvent... Donc on est encore toujours dans cette idée de monde parallèle, de monde et pas parallèle dans le mode Marvel qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant avec Hellboy, c'est qu'il y a toujours une justification, pardon, parce qu'en fait, donc ce personnage-là qui souhaiterait s'ouvrir au monde, mais forcément, on le sait très bien, le monde ne s'ouvrira jamais à lui et donc finira par être rejeté, même si lui pense qu'il pourrait devenir un peu de leur héros, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est Del Toro qui parle aussi de nos mondes actuels, comment elles sont prêtes ou pas à accepter à accepter les contes, à accepter ce discours imaginaire, en tout
c'est
cas, cette part de fantastique quoi qui pourrait y avoir. C'est de ça dont parle Hellboy quand même la plupart du temps. Au-delà, d'ailleurs, il va beaucoup plus là-dessus que dans le comics, qui est beaucoup plus en mode presque film noir, quoi. Voilà. Voilà, c'est un grand défenseur. Et d'ailleurs, on le retrouve. Tu parlais de Pinocchio, donc c'est évident qu'il adapte ce conte-là connu de tous. Et même la série Netflix qu'il a fait il y a deux ans ou l'année dernière, je ne sais plus, sur son cabinet de curiosité.
Oui, qui est une série d'anthologie.
Qui s'appelle Cabinet de curiosité, où on le voit présenter à chaque fois, sortir. Et à chaque fois, c'est des contes, c'est des histoires différentes qui sont aussi, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à chaque fois une histoire différente et donc une identité visuelle complètement différente selon quoi. Et donc ça, c'est dans son travail de producteur, d'exécutif de cette série aussi, elle se retrouve là-dedans.
Totalement. Et c'est pour ça aussi tu fais bien de rebondir sur cette série-là, parce qu'en fait ça permet aussi d'expliquer aussi également que c'est un auteur qui est grandement inspiré par la littérature gothique anglo-saxonne, notamment donc par le biais de M.R. James, de Sheridan Le Fanu ou encore Arthur Machen. Et forcément, fantastique horreur, et là on a forcément le nom qui est le plus représentatif, qui est Lovecraft, lui qui voulait faire une adaptation des Montagnes Hallucinées, qui après avoir vu Prometheus s'est dit mettre le projet un petit peu de côté.
Quel dommage.
Et c'est vrai que quand on voit la plupart de ces films, donc comme on disait, donc L'Échine du Diable, mais encore même Crimson Peak, je pense qu'est le plus représentatif sur la littérature gothique, on a vraiment en fait tout cet aspect-là à l'image en fait.
Ouais, et qui alors c'est marrant, moi c'est une partie là c'est pour moi, je suis moins fan de la dernière partie de carrière de Del Toro. Crimson Peak, ça commençait déjà à faire un peu mal, mais
à grincer des dents d'ailleurs.
À grincer des dents, mais c'est parce que c'est l'approche numérique de tout ça qui me parle beaucoup moins. Mais il faut bien admettre que Del Toro il va à 200%, et c'est-à-dire que il embrasse l'imagerie kitsch du gothique, il y va à fond dans Crimson Peak. Donc je peux pas lui enlever ça, quoi. C'est quelque chose qui me parle moins. Voilà, il y a quand même moins. Il y a ce rapport à l'artisanat qui est beaucoup moins là, et moi je trouve que là, ça fait vraiment très très défaut et très très académique dans La Forme de l'eau, quoi, qui fait après, où là c'est à la fois presque un pardon pour Crimson Peak, je reviens du film de monstre,
et en même temps
bah écoute, je me fais une auto-caricature du film de ce que je fais, et ça reste dans une enveloppe académique. C'est pas pour rien pour moi qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film, c'est
peut-être son film le plus académique,
ouais, complètement, quoi. C'est vraiment, tu remplaces la créature sous-marine par un mec, je veux dire, il a rien inventé, quoi. Vraiment, c'est voilà,
mais c'est fou parce qu'en fait de 2013 on a donc Pacific Rim, après il passe par Crimson Peak, juste après donc il fait La Forme de l'eau en 2017.
Ouais.
On est quand même sur des univers extrêmement éclectiques en fait.
Complètement. Et puis son dernier en date,
Nightmare Alley
qui lui
en live, hein, parce que après il y a eu Pinocchio en 2023.
Ouais, mais il était avant Nightmare Alley.
Nightmare Alley, ouais, c'est 2021.
C'était 2021. Où là, celui-là, la revue critique, on avait dit tout le mal que j'en pensais, en tout cas.
C'est pas son meilleur, oui.
C'est pas son meilleur. Jonathan serait là, il nous dirait qu'il a beaucoup aimé parce qu'il l'a vu en noir et blanc et que c'était encore une autre expérience. Ce que je veux bien croire, parce que mon principal reproche était la photo de ce film.
Ouais.
Et du coup, je veux bien le croire, mais en tout cas, Nightmare Alley, c'est le film. Aucun élément fantastique n'est dans le film, quoi.
Oui,
et vraiment, c'est du film noir. Tout ce qu'il y a de film noir.
C'est un remake, hein, de film noir.
Ouais, c'est un remake. 30, hein, mais je veux dire, il y a aucune créature. Et la seule place qu'il y a, à l'imaginaire, c'est le fait que Bradley Cooper est un menteur et qu'il crée des personnages, il crée des mondes pour pouvoir s'en sortir. Mais, sinon, voilà, mais c'est quand même, voilà, on est sur Del Toro qui continue, malgré tout l'étiquette qu'on veut lui coller, à faire des films là où on l'attend pas. C'est Nightmare Alley, à quel moment on se dit Guillermo Del Toro va faire un film noir de 2h30, en plus, qui plus est, tu vois, voilà, donc.
Oui, c'est ça.
Et faire un Pinocchio alors, il est moins étonnant, mais à s'essayer au stop motion, là, pour le coup.
Oui, et d'ailleurs, c'est un cinéaste qui a été particulièrement, surpris et agréablement surpris par le travail du stop motion, car c'est vrai que c'est une première. D'ailleurs, le film est co-réalisé avec Mark Gustafson, il ne faut pas l'oublier. Et il le dit, donc par la suite, il aimerait vraiment continuer par tourner uniquement à l'animation et faire peut-être possiblement moins de live. On va voir ce qu'il va préparer par la suite.
On verra bien. C'est vrai que le stop motion, en tout cas dans le Pinocchio, s'accordait très très bien avec lui. Ça, en fait, je trouve avec le conte sur la manière dont il a raconté une histoire, l'animation était plus que bien choisie pour le Pinocchio, quoi.
Oui, c'est
et très belle au demeurant. Très belle.
Surtout qu'en fait, comme on le disait, donc c'est un cinéaste du conte. Il a accepté les codes du genre. Il arrive quand même à les réadapter. D'ailleurs, encore un peu plus avec le contexte historique. On en parlait, l'histoire est toujours très très importante dans le cinéma de Guillermo del Toro. On le voit donc notamment en Espagne avec Les Chines du Diable, Labyrinthe de Pan, donc, où il a une certaine originalité, donc c'est de confronter les monstres de l'histoire et le bestiaire fantastique. Et dans Pinocchio, en fait, on a à peu près cette réappropriation aussi forcément du c'est pour ça que le film est bon, je trouve, c'est qu'il va aussi à une certaine réappropriation donc du contexte du conte mais aussi de l'époque, il va le réadapter donc avec le contexte de l'Italie fasciste et je trouve que ça marche à merveille.
Et il ramène cette violence crue qu'il y avait à l'époque du fascisme tout simplement
et surtout forcément l'embrigadement des jeunes
bien sûr
dans la politique
dans le fascisme bien sûr et du coup, en réépousant vraiment le conte de Goldoni, quoi, tel qu'il est, quoi. Mmh. Et donc voilà. Mais même Hellboy, tu vois, je repense à ça. Hellboy a été ramené par des nazis, quoi, tu vois.
Oui, oui.
Donc c'est presque Del Toro qui est en train de dire, bon, on sert d'anciens nazis au secret du gouvernement pour éviter d'autres monstres qui arrivent, tu vois.
Tu parles d'Oppenheimer, peut-être.
Non, justement, je parle pas d'Oppenheimer. Je parle de vraiment un film qui est beaucoup plus intelligent que ça. Dans Hellboy, tu vois, ça rejoint la même idée, tu vois.
Oui, non, mais c'est-à-dire que c'était pour faire la blague.
Ouais, hein, ouais. Mais... en même temps, Hellboy, ça parle de ça aussi.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'on a créé ce portail dans le monde réel, c'est la bombe atomique. Là, ils ont créé un portail des enfers, ils ont ramené le Hellboy, voilà. Et puis, on s'en sert aujourd'hui pour lutter contre des forces du mal.
Voilà.
À choisir quelles sont les forces
quelles
du mal.
Quelles sont les forces du mal, forcément. Voilà. Alors, pour terminer dans cette partie, il faut. J'aimerais en revenir un petit peu là-dessus. Del Toro, en fait, exige tout le temps à ses spectateurs de croire en ce qu'il voit. Donc forcément, l'importance de ce qu'on appelle forcément la suspension d'incrédulité. Et je trouve que dans Les Chines du Diable, en fait, il part directement du principe que les fantômes existent et ne va pas mettre du temps pour prouver qu'ils sont là avec un contexte ou autre, comment ils sont venus dans ce monde. Ça lui importe pas, ça.
Non.
C'est-à-dire qu'en fait, tout est relié déjà dès le départ.
Et en fait, il y a surtout...
Ils sont là, ils sont présents, on va pas lui raconter une histoire derrière.
Non, et puis il y a surtout un élément très important, en tout cas dans la plupart de ces films-là, c'est qu'il y a la figure de l'enfant qui est très importante. C'est-à-dire que comme l'imaginaire passe forcément par le regard de l'enfant.
C'est le regard de l'enfant, et en plus, ça lui permet très intelligemment en fait, de contraster avec le regard de l'enfant face à la violence humaine.
Complètement.
Face à la violence adulte. Et ça, forcément, c'est encore plus évident avec le contexte historique dans tous ces films.
Mais c'est parce que l'enfant croit à cet imaginaire-là qu'il va pouvoir s'en servir, combattre le monde réel, en tout cas, il survit. C'est le cas de La Chine du Diable, c'est le cas de cette séquence dans Pacific Rim où le héros, on le revoit enfant, et
l'héroïne, quand elle est confrontée au Kaiju,
c'est quand elle est enfant et qu'elle voit ça devant elle, et c'est ce qui va lui permettre ensuite d'aller vraiment les combattre. Tout le cadre est tout comme Pinocchio, quoi, qui alors c'est encore particulier parce que Pinocchio a la naïveté et puis surtout il a cette particularité qu'a le personnage de Pinocchio, c'est-à-dire d'être un gamin hyper violent dans ses mots quoi, tu vois, d'être assez méchant sans s'en rendre compte,
en fait il va découvrir ce que c'est être humain, donc c'est-à-dire que
exactement.
La compassion, l'amour, la méchanceté
et de retrouver quelque part l'enfant qu'il n'est pas en fait.
Voilà.
De toute façon, c'est tout le mythe, il veut devenir un vrai petit garçon. Quoi.
C'est exactement ça. Quoi.
Mais voilà, il y a quand même la figure de l'enfant, elle est hyper importante et elle permet, comme tu dis, de faire la médiation entre nous, spectateurs, et l'élément fantastique auquel on va croire, parce que ça passe par le regard de l'enfant, alors on est plus à même de rentrer dans cet imaginaire qui veut nous amener.
Exactement. Et pour le coup, donc, on va faire une pause BO qui correspond parfaitement bien là-dessus. Blade 2, Right Here, Right Now,
voilà.
De Ice Cube. This right here, it's payback. Payback, I don't play that. This
right here. It's payback, payback. I don't play that. This right here, it's payback, payback. I don't play that. This right here, it's payback, payback. I don't play that. Recognize a real dime when you see one, and don't try to be one, you fucking peon. I've been like Dion for eons. You ain't nothing but a biatch. Messed around and let me re-up. I come back through and tear the street up. Ice Cube, nigga, you better D up. And when I come by, bitch, you better be up. Ass up, face in the pillow. I don't give a fizzle, got to do my fizzle. The only nizzle that'll never ever fizzle. Original, you niggas know, come on. We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up. Got to get with ya, hit you with these things that I'm holding. Who wanna squab with the frozen? Now who wanna battle with the chosen? You niggas lotion, I'm no emotion. I'm shrapnel from the explosion. Hit you in the face while you posing. Hi, it's Jimi Hendrix. I lined up 10 dicks and took out appendix. So go get forensics. Let them know I'm Geronimo. Till it's my time to go, you better find your hoe. Get your babies and your mama and move to Guantanamo. Doubt my skills, I'm paying my bills. I'm up in the hills, you niggas are kills. Even though I'm on a fucked up label, you bitches know what I can bring to the table.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up.
This right here is payback from way back. I don't play that.
Play that.
Right here is payback, payback. I don't play that.
Play that.
This right here is payback from way back. I don't play that. This
right here
is payback from way back. I don't play that. I like bitches like you. 5'2 wearing light blue. The freak get high too with a fly dude. Not a Erica Badu that's looking for an I do. Now what can I buy you just to try you? Need another bitch to lie to. Need another bitch in my coupe. Oh please, can I trouble you for a double scoop? A nigga need some TNA. Now you can get dick, but you can't get no DNA. I heard you was a big freak.
Can I hang?
Bitch, look down, I got some big feet. I like Mike and Ikes. I like watching dykes. I like going to fights. I like earning my stripes. In the book of life, it's only two women, big old good ones, and good old big.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up,
come get some.
We gotta get them up,
who wants some?
You better get them up.
Yo yo yo, bienvenue sur Radio Nu Metal.
Les enfants donc, voilà.
Les enfants donc.
Il faudrait faire une émission sur les BO de Guillermo del Toro quand même. Ils sont incroyables.
C'est, ouais, mais ça, tu vois, c'était le. Alors, je pense qu'en plus pour ce film, faudrait que je me rappelle, mais faudrait que je retrouve. Mais il faut pas l'oublier que ouais, ils ont. On est en 2002, donc.
Ah, tu trouves que ça sent les années 2000
moi
je vois pas de quoi
et
tu parles.
Et Limbiskit était déjà pris pour Mission Impossible 2, donc.
le vrai.
On va faire appel à Paul Uncalfield et tu vas faire un remix d'un morceau de Ice Cube et c'est parti. C'était comme ça, Blade 2, écoute,
et oui,
là voilà.
Et oui, mais c'était cool, Blade 2, voilà. Il est cool.
Il est cool, et ben en parlant de cool, on va faire un petit tour de table. Donc finalement, quel film de Guillaume du Toro t'aimes le plus?
Guillaume du Toro, waouh, waouh. j'aime le plus.
Pris au dépourvu, comme ça.
Oui, quand la mise fut venue. Écoute, je pense que je vais dire le labyrinthe de Pan, bien évidemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'apothéose de tout ce que j'aime chez Del Toro, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Mm-hmm. Comme on l'a dit, cette dichotomie entre le monde dur, réel, ouais, l'imaginaire du conte est poussée à son paroxysme. C'est le film, je trouve, qui l'émotion est la plus forte, en tout cas, dedans. Même si j'aime énormément Les Chines du Diable aussi. Pour son esthétisme surtout, moi les plans de Les Chines du Diable, je trouve ça dingue à chaque fois que je le revois.
Les plans de nuit même.
Mais complètement. Et puis il y a un travail sur l'architecture dans le film qui est hyper belle. Le labyrinthe de Pan va beaucoup plus loin dans tout ça aussi. Et c'est un film qui me fait passer par beaucoup d'émotions, et puis surtout qui, quand il convoque l'univers imaginaire, ça pourrait faire un film juste là-dessus, tu vois, tellement c'est riche et tellement ça nous fait... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revient dans le monde réel, moi, mon cerveau, il est toujours « Mais alors, qu'est-ce qu'on vient de voir ?» Et ton cerveau, il continue d'imaginer d'autres choses que t'as pas forcément vues à l'écran. Et dans ce cas, le film fonctionne totalement, parce que c'est tout à fait le discours qu'il a envie de porter, quoi, de continuer de rêver à cet univers-là, alors que tu vis dans ce monde...
C'est ce que j'apprécie le plus, en fait, avec Del Toro, c'est que même avec un film comme récemment, Pinocchio, qui a en fait une relecture, que ce soit Le Labyrinthe de Pan ou non Pinocchio, en fait, il y a toujours un travail de l'imaginaire, un travail de créer des monstres, un travail de vouloir montrer quelque chose d'original, qui sort donc forcément de l'ordinaire, alors qui va toujours épouser ce qu'il s'inspire. C'est comme Pacific Rim avec Gundam et compagnie, il le dit lui-même, hein, c'est énormément inspiré de tout ce qui est robot japonais et compagnie, mais il a toujours cette volonté de toujours montrer une certaine vision personnelle. Et c'est ça que j'apprécie le plus chez ce bonhomme.
Ouais, qui continue encore de le faire, aujourd'hui, quoi. En tout cas,
surtout dans un monde où Hollywood ne fait que des remakes ou ne fait que des films que l'on a déjà vus, qui sont déjà écrits de la même façon. On a toujours le même Tom Cruise. Enfin voilà quoi.
Et c'est pour ça qu'on a cet attachement à Guillermo del Toro aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que. Quand bien même, malheureusement, Nightmare Alley, par exemple, s'est complètement fracassé au box-office. Voilà, ça ne marche pas pour lui, ça n'a pas marché. En même temps, les films noirs, 2h30, c'est compliqué aussi. Et je ne parle pas de la qualité ou pas de ce qu'on en dit. Le projet en tant que tel est compliqué. Mais c'est quand même quelqu'un qui est passé par... et qui est encore dans la machine hollywoodienne.
Oui.
Et qui continue à essayer de se battre pour créer ses propres projets qui sont singuliers, qui sortent de toute franchise. Et quand bien même il ferait une franchise, il nous a montré avec Hellboy ou Blade 2 que c'est tout à fait dans ses cordes.
De créer même une franchise, Hellboy,
il a créé la franchise, mais Blade 2, il l'a repris en cours de route. Alors c'était pas du tout le Marvel qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce serait pas impossible. Et puis surtout, il arrive à aller un peu à... Voilà, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter et aller à droite à gauche. Il est passé dans l'animation avec Netflix. Il est allé dans le jeu vidéo avec Hideo Kojima pour son Death Stranding. Ouais. Et avant, il devait faire
Silent
Hill. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est avare en projet et en idée de projet. Donc, je pense qu'il trouvera toujours de quoi faire, de quoi travailler, en tout cas. C'est pour ça quand bien même que ces derniers nous laissent un peu plus froid, en tout cas moi, ça n'empêche que j'ai toujours hâte de savoir quel sera le prochain film, série, projet de Guillermo del Toro.
Exactement, je suis absolument du même avis. Et je trouve qu'en fait, voilà, ça a toujours été un réalisateur qui va toujours quand même proposer toujours quelque chose de très différent. Par exemple, avec Les Chines du Diable, forcément, où il va donc reprendre le contexte du film de Maison Hantée, qui va épouser le point de vue des fantômes. On a Mimic, qui est un peu plus ou moins une relecture du Frankenstein, avec la créature qui se retourne contre son créateur. Mais c'est un cinéaste, en fait, qui a deux contrastes. Il y a la sensibilité et le divertissement. Si je dois choisir le divertissement, je vais prendre Pacific Rim. Pourquoi ? Parce que je trouve que finalement, c'est un film de jouets par excellence. C'est un film qui me ressort en enfance, c'est un film qui me redonne l'envie de regoûter à voir des films de monstres, à revoir des films de kaiju, des Godzilla, des Gamera et compagnie. Et c'est un film qui va réussir à se réapproprier le principe du kaiju Ega, donc le film de monstres. Et dans Pacific Rim, il embrasse l'école du genre, c'est-à-dire qu'il va donner des noms monstres, il va Il va montrer que l'homme est responsable aussi en partie de l'apparition de ces monstres. Et il va travailler sur l'échelle des plans. Et ça, c'est très très important. C'est une chose qu'a du mal à faire notamment la franchise Godzilla de Legendary. Et c'est sa force. Et ce que je trouve qui est très intéressant et qui montre à chaque fois que même quand il fait des gros blockbusters comme cela, il va pas épouser toujours les contextes et les réappropriations et les mêmes les problèmes de relecture qu'on a l'habitude de voir à Hollywood. C'est genre à la scène de fin dans Pacific Rim où les deux héros, donc le personnage donc de Charlie Hunnam et l'actrice asiatique, j'ai oublié son nom, où à la fin on les voit se regarder droit dans les yeux, on se dit oh là là, ils vont s'embrasser comme dans n'importe quel film lambda et compagnie. Non, ils se prennent dans les bras parce qu'il y a un contexte juste de libération. Eux, ils viennent de vivre de deux traumatismes. L'un a perdu son père, l'autre a perdu donc toute sa famille auparavant et a décidé de se venger des Kaiju et a reperdu son père adoptif qui était donc Idris Elba.
Oui.
Et il y a ce contexte en fait de libération, de soulagement.
Ouais, et puis de se dire que c'est la finalité de tout ça, c'est qu'ils sont pas prêts à être en couple, non. Ils sont prêts à être partenaires.
Ils sont prêts à être partenaires, parce qu'en fait, le principe de Pacific Rim, c'est d'être à deux pour se battre.
Complètement.
Il y a toujours une certaine dualité là-dessus qui est très très forte. Et c'est pour ça aussi que c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui va vraiment au fond des choses en fait.
Et qui est hyper généreux aussi.
La générosité, comme je disais, on est dans le vrai divertissement. Et
quand on voit un robot prendre un paquebot et défoncer un cajou, je suis désolé, hein, mais moi, il m'en faut peu.
Et forcément par la sensibilité, je vais rejoindre ton propos sur le labyrinthe de Pan, qui forcément la quête de conte de fées du contexte particulier se déroulant en 44, avec forcément il y a toujours un truc très important dans ce film, c'est notamment la montre qui est en fait le rappel du temps, le rappel de la mort, mais forcément la volonté en fait d'avoir une descendance, de donner une vie, c'est le contexte du personnage d'obsessionnel du colonel Vidal, donc qui est campé par Sergi Lopez, qu'on voyait tout le temps, qui est donc très souvent montré en contre-plongée. En fait, il est toujours propre sur lui-même. En fait, c'est un... On est vraiment sur une vision d'Héros et Thanatos, c'est-à-dire l'attirance et la mort, en fait, ce personnage.
Ouais,
et c'est ça qui est, en fait, déroutant envers ce personnage et qui est fascinant aussi à travers ce... Je pense que c'est pour ça aussi que Sergi Lopez a voulu faire ce film.
Ouais, complètement. Mais c'est marrant. Là, du coup, tu reprends un autre thème qu'on aurait pu développer sur le temps, quoi, dans les
Del Toro. Chronos, hein, déjà, dans le
Chronos, c'est typiquement ça. Comme tu dis, le personnage de Sergi Lopez. Et Pinocchio, un des gros discours, c'est sur le temps qui passe et qu'on ne peut pas rattraper. Et le fait que le film se termine comme ça sur en fait j'ai pas gagné par rapport au temps, ils m'ont enlevé les êtres que j'aimais.
Voilà, et ce n'est pas pour rien aussi que les personnages fantastiques les plus représentés dans ces films sont des personnages intemporels, que ça soit les vampires ou les fantômes.
Complètement. Ou même Hellboy, quoi. Il y a quand même c'est y a quand même un rapport au temps, et ce qui fait que même lui, quoi, tu vois, il y a quand même cette boulimie même de projet.
Et cette volonté de forcément de pas montrer que les monstres forcément sont les menaces principales, mais aussi que le monstre peut être l'homme lui-même.
Oh bah avec cette quasiment jamais les menaces principales.
Cette façon en fait toujours de représenter en fait le mal institutionnel, donc le fascisme dans tous ces films.
Quoi. Complètement.
Voilà. Pour le coup, donc on va faire une pause.
On va
l'émission. Voilà, j'allais continuer. On fait une émission de 2 heures finalement. Donc on va terminer là-dessus avec un morceau tout gay de Labyrinthe de Pan, car c'est un film que forcément on adore et on a envie de revoir.
Et de revoir
encore, bien évidemment. Merci Sébastien pour cette émission.
Merci à vous.
Et on revient donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao à tous.